Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Si le ministre français de l'économie se veut officiellement confiant, le doute domine tout de même chez les salariés d'Ascoval, une aciérie du Nord. Hier, le repreneur britannique du site a été placé en redressement judiciaire. Nous y reviendrons dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi en Grande-Bretagne, où débute aujourd'hui le vote aux élections européennes, le tout sur fond de crise politique majeure dans le pays. Et puis, quel avenir pour le 737 MAX de Boeing ? L'avionneur américain sera au centre aujourd'hui d'une réunion avec les régulateurs aériens d'une trentaine de pays. Et ce, après deux crashs d'avions en quelques mois, analyse dans ce journal. C'est une réunion de crise autour de l'aciérie d'Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevra tout à l'heure à 15h30 la direction de l'usine, les représentants syndicaux et des élus des Hauts-de-France et de Valenciennes Métropole. Hier, le sidérurgiste britannique British Steel, dont la maison mère vient de reprendre Ascoval, ce sidérurgiste a été placé en redressement judiciaire. C'est un nouveau coup dur, quelques mois après l'abandon d'Altifort qui, lui, n'avait pas les fonds pour racheter Ascoval. Bruno Kobzinski est le porte-parole de l'intersyndicale sur place. Il assure que les salariés d'Ascoval sont au bord de la crise de nerfs.
Les gens n'y croient plus et le seul moyen de redonner confiance aux gens, c'est de trouver les mots et de trouver les éléments pour tenter de les ramener dans le chemin de la vraie réalité. Mais il faut les comprendre, quoi. C'est 4 ans de combat. C'est 4 ans de choses irréelles qui sont arrivées. À avoir 2 écroulements consécutifs comme on vient de l'avoir, ça ne s'est jamais vu dans le monde, quoi. 2 repreneurs qui lâchent la baraque à moins de 15 jours, psychologiquement, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Quand je dis que ça détruit une vie de famille, ça détruit une vie de famille. Et ça ne s'arrête pas qu'à la vie de famille. Il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a plus de vie.
Et une réunion est donc prévue aujourd'hui au ministère de l'économie. On ne sait pas encore si les représentants du groupe britannique British Steel sont conviés à cette réunion. La Grande-Bretagne est en crise politique plus que jamais en ce moment. Les Britanniques n'ont toujours pas trouvé d'accord pour sortir de l'Union européenne et ils votent donc ce jeudi pour élire 73 députés européens. Hier, devant l'impasse sur le Brexit, la ministre chargée du Parlement a démissionné. Une partie des conservateurs du pays réclame le départ de la Première ministre Theresa May et le scrutin du jour pourrait être fatal à Theresa May. Un scrutin qui va sans doute consacrer la défaite des grands partis de gauche comme de droite, Antoine Gignot.
Si les élections reflètent vraiment la vie politique britannique, le miroir, cette fois, risque de se casser en 1000 morceaux. À Londres, chez les conservateurs, le numéro 1 sur la liste milite pour un Brexit dur, alors que le numéro 2 est un europhile convaincu. Les querelles pourraient entraîner un fiasco électoral qui, après des mois de numéros d'équilibrisme, pourrait coûter sa place à la première ministre. À gauche, ce n'est pas plus clair. Les candidats promettent aux électeurs un deuxième référendum sur le Brexit, alors que plusieurs cadres s'y opposent. Leur stratégie pourrait pourtant permettre de limiter la casse, voire d'arriver en tête dans certaines circonscriptions, en prenant l'avantage sur le parti du Brexit de Nigel Farage. L'ancien dirigeant de UKIP a quitté le parti d'extrême droite. Il affirme qu'il le trouvait trop xénophobe. Il entend rassembler les électeurs déçus qui ont voté pour quitter l'Union européenne. Les sondages lui prêtent dans l'ouest des Midlands jusqu'à 40% d'intention de vote.
Autre pays, autre sondage, les Pays-Bas votent également ce jeudi pour la première poussée des populistes qui est attendue dans l'Union européenne. Le jeune député eurosceptique, anti-immigration et climato-sceptique Thierry Baudet est en passe de sortir vainqueur de ce scrutin aux Pays-Bas. Notons par ailleurs qu'en France, à 3 jours des élections, notre partenaire Ipsos Soprasteria a réalisé un nouveau sondage auprès de 1500 personnes. À l'approche du vote, les listes du Rassemblement national et de la majorité concentrent à elles seules près de la moitié des intentions de vote. Pour Yves Bardon, qui travaille sur les élections au département Public Affairs chez Ipsos, c'est le vote utile qui peut tout faire basculer.
Ces deux listes continuent de progresser avec chacune plus 0,5%, puisque maintenant le Rassemblement national est à 24% d'intention de vote et l'AREM à 23,5%, donc on est vraiment dans un mouchoir de poche. C'est extrêmement serré parce qu'on est dans une logique de vote utile et chacun des supporters des deux types de vote utile possibles se mobilise, puisqu'on voit que la certitude du choix s'affirme encore, avec un enjeu qui est simple, finalement, parce que soit on est contre Macron et contre l'Europe, et évidemment c'est le Rassemblement national qui va attirer, soit on est pour Macron et pour l'Europe, et à ce moment-là, bah, c'est l'AREM qui peut remonter en tête et passer devant, mais ça se joue effectivement avec une marge d'incertitude importante.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Le jeune homme qui a agressé Julia Boyer, une femme transgenre, au mois de mars à Paris, a été condamné hier à 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il a également interdiction d'entrer en contact avec la victime et de s'approcher de son domicile. La justice a fait son travail, a déclaré Julia Boyer à l'issue de l'audience hier. Autre procès, celui du gilet jaune, poursuivi pour des injures antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Les images avaient, en février dernier, fait réagir dans les médias. Antoine Maret était hier à l'audience pour France Culture. Voici son compte-rendu.
Alain Finkielkraut a fait le déplacement, mais il ne se porte pas partie civile. Le philosophe explique qu'il ne poursuit aucune vindicte personnelle.
Contrairement à ce qu'essaye de dire la défense, ce n'est pas moi en tant qu'individu avec ses opinions qui ai été visé. C'est moi en tant que juif. Quand il dit la France est à nous, il présente un nous arabo-musulman qu'il oppose à un autre nous, celui dont je fais partie.
Le prévenu n'exprime aucun remords. Ce commerçant au chômage de 36 ans, sans casier judiciaire, assume chacun de ses propos. À la barre, il se noie dans des explications fumeuses sur un prétendu lobby sioniste. Et il ajoute « Le sionisme, c'est du racisme, ça fait du mal à tout le monde ». Pendant le visionnage des vidéos de l'agression, il plonge sa tête dans ses mains, mais de retour à la barre, il persiste et signe et se pose en victime des médias. Son avocat, maître André Chamy.
Ses propos ont été déformés afin de servir une cause, c'est-à-dire celle de salir les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes devenaient un phénomène social qui posait problème au pouvoir politique, et le pouvoir politique a sauté sur l'occasion pour casser ce que j'appellerais l'élan des gilets jaunes.
La procureure appelle que l'on n'est pas au procès des gilets jaunes. Il ne s'agit pas d'un débat politique, mais d'un débat judiciaire. Elle dénonce un antisémitisme dissimulé derrière de l'antisionisme. Elle réclame à l'encontre du prévenu 6 mois de prison avec sursis.
Le jugement sera rendu le 12 juillet prochain. Aux États-Unis, une guerre ouverte est déclarée entre les démocrates et Donald Trump. Les démocrates du Congrès menacent le président de destitution pour entrave à la justice. Donald Trump est soupçonné d'avoir tenté d'étouffer les conclusions d'une vaste enquête russe dans laquelle il est visé. Très irrité par ces accusations, il a assuré hier qu'il ne dissimulait rien et quittait une réunion précipitamment. La journée s'annonce cruciale pour Boeing et ses 737 MAX toujours cloués au sol depuis les crashs d'Éthiopie. Ethiopian Airlines et de Lion Air, des accidents qui ont fait, je vous le rappelle, 346 morts. La FAA, le régulateur aérien américain, reçoit aujourd'hui au Texas des représentants de 33 pays, pays de l'Union européenne, mais également le Canada et la Chine. Boeing souhaite les convaincre que les failles de sécurité sont maintenant résolues. Et voilà ce qu'en pense Xavier Tittelmann. Il est spécialiste en sécurité aérienne et consultant chez le groupe de communication CGI.
Je pense surtout qu'ils vont faire une autocritique, qu'ils vont être totalement transparents sur ce qui s'est passé, sur le fait que bah, peut-être qu'ils avaient été trop loin dans la gestion autonome par Boeing de ses capacités à valider ses appareils. Ils vont s'engager à vérifier systématiquement tout ce qui va toucher aux commandes. On ne peut plus accepter qu'il y ait 90% d'un avion qui soit auto-certifié. Et donc ces parties-là qui sont cruciales, qui sont fondamentales, chaque évolution doit être discutée, doit être réfléchie et doit être validée par le régulateur. L'AFA va vouloir surtout obtenir l'aval de ses homologues en disant « si je le certifie, faites-moi confiance, ne refaites pas une nouvelle certification » parce qu'actuellement, on est dans une situation où les autres grandes nations, c'est-à-dire le Canada et l'Europe notamment, ont dit « vous allez le certifier, mais nous aussi, on va le certifier l'avion ».
Ce qui, j'imagine, prend du temps.
Évidemment, ça prend des semaines et des mois. Il y a aussi la question de la formation sur laquelle ils vont devoir réfléchir. Les États-Unis disent ben, « nous, on pense qu'une formation théorique sur les évolutions sont suffisantes. Les Canadiens veulent absolument qu'il y ait du simulateur de vol sur la nouvelle version », ce qui aujourd'hui n'était pas indispensable. Il va falloir trancher, il va falloir des évolutions. Si l'avion vole avant la fin du mois d'août, ce serait vraiment un exploit, mais c'est l'objectif que se sont donnés les Américains.
Xavier Tittelmann, il répondait à Théo Hetsch lors du journal de 22h de France Culture hier soir. Le dépouillement a commencé en Inde après les législatives géantes dans le pays. Près de 600 millions d'électeurs se sont déplacés pour voter ces dernières semaines, 6 semaines au total pour ce scrutin. Il doit décider ou non de la reconduction du Premier ministre Narendra Narendra Modi et des nationalistes hindous au pouvoir. Les résultats définitifs pourraient être connus dans la journée, mais à l'instant, le gouvernement note une nette avance pour le parti du Premier ministre Narendra Modi lors des premières tendances de ce dépouillement. De belles éclaircies encore ce jeudi, notamment sur la partie est, du Grand Est jusqu'à l'Occitanie. Les nuages vont arriver par l'ouest aujourd'hui, avec un peu d'orage cet après-midi en Normandie. Ce matin, comptait 17 degrés à Strasbourg, 18 à Lille, 20 degrés à Paris et Bayonne, 22 à Perpignan.